Regard chrétien sur le monde.
Réunis par la Comessée à Clermont-Ferrand pour un séminaire de réflexion sur l'avenir de l'Europe, il y a quelques jours, plusieurs intervenants chrétiens ont partagé leur vision de l'Europe. Ce sont trois regards, ceux d'Européens chrétiens convaincus et reconnus, que nous vous proposons cette semaine dans Regard chrétien sur le monde.
Ce séminaire, il est là pour faire le constat de ce qu'on appelle un coma de l'Europe, ou une panne. Il vaudrait mieux parler en termes spirituels de désolation spirituelle. Nous ne sommes pas dans la consolation. Et les Européens cherchent comment relancer le processus institutionnel. Et ben, une des conclusions de ce séminaire, c'est que ce n'est pas seulement le processus institutionnel, c'est les mentalités qu'il faut recréer, rechanger.
L'analyse du père Henri Madelin, jésuite, membre de l'OSCIP, Office catholique d'information et d'initiative pour l'Europe, est partagée par de nombreux analystes européens. L'Europe est donc en panne et pourtant la construction européenne se poursuit, comme en témoigne la confirmation récente de l'élargissement de l'Union européenne à la Roumanie et à la Bulgarie en 2007. Un décalage qui déroute parfois les citoyens européens.
Le problème de l'élargissement crée des perturbations fortes chez les électeurs parce que ils ne sont pas absolument convaincus qu'après la Roumanie, il n'y aura pas encore d'autres qui vont être intégrés. Il y a des processus dont il faut parler. Je pense qu'il y a du déficit de pédagogie et d'explication au niveau européen. Mais regardez comment procède la France. Elle a tendance à transformer l'Europe en bouc émissaire de tout ce qui ne va pas.
Pourtant, vu de Pologne, un des pays qui a rejoint l'Union européenne en 2004, l'élargissement est une bonne nouvelle pour l'Europe, comme en témoigne Henryk Wojciechowski, président des éditions SNAC, première maison d'édition en Europe et membre du groupe XC, Initiative des chrétiens pour l'Europe.
Mon regard est peut-être un regard un peu marqué par notre histoire. Qu'est-ce que ça signifie pour les nations, pour les peuples qui ont entré dans l'Union européenne récemment, ce fait de l'accession. C'est pour nous non seulement une chance économique de meilleur développement, de développement plus soutenu, moins troublé, moins coûteux socialement. Tout ça, c'est évidemment vrai. Tout ça, c'est très attrayant et très important pour nous. Mais pour nous, les Polonais, et pour les autres centres européens aussi, c'était un grand tournant historique, un grand changement historique qui change radicalement notre situation, disons, géopolitique. L'Union européenne, avec ensemble, elle est regardée bien souvent dans l'ensemble avec l'OTAN et avec l'entrée de la Pologne et de ces pays à l'OTAN, nous libère d'une certaine de fatalité géopolitique qui était notre emplacement entre des grandes puissances, entre la Russie et l'Allemagne qui avaient encore récemment les tendances totalitaires. Et donc la Pologne, comme vous le savez, a été pendant longtemps écrasée par ces, à plusieurs reprises écrasée par ces deux puissances. Et maintenant, voilà cette entrée dans l'Union, cette accession, ça change radicalement, ça nous libère de cette fatalité. Nous sortons de ces tenailles historiques ou géopolitiques, nos anciens ennemis deviennent alliés. Et nous nous retrouvons dans un nouveau monde, pour ainsi dire. Nous retrouvons aussi les nouvelles responsabilités. Non seulement l'Europe est ouverte devant nos yeux, nous redécouvrons l'Europe, mais aussi le monde, parce que cette Europe se veut ouverte vers le monde, a des responsabilités envers le monde entier. Ce sont les responsabilités à partager. Nous redécouvrons donc nos nouvelles responsabilités au sein de cette Europe. Tout cela, ça touche non seulement notre situation historique et situation géopolitique, ça touche notre identité collective et notre identité personnelle même. Ça nous libère de ce sentiment d'être des victimes des injustices anciennes, des frères non aimés de l'Europe, souvent trahis, etc. Ça nous donne beaucoup plus maintenant, nous nous sentons plus sûrs de nous-mêmes et des sujets plus actifs qui ont le rôle positif à jouer dans tout ce concert européen auquel nous voulons contribuer.
Pourtant, on a souvent, en France ou ailleurs, la vision d'une Pologne eurosceptique.
Il y a évidemment des courants eurosceptiques en Pologne. Ils peuvent s'expliquer. Voilà, nous avons d'un côté une souveraineté nationale, une indépendance récemment acquise ou reconquise, et tout d'un coup il faut partager cette indépendance avec d'autres peuples. Pas tout le monde est prêt à cela. Il y a aussi certaines craintes identitaires. La Pologne qui se considère très catholique, qui l'est dans une grande mesure et qui voit les pays de l'Europe occidentale qui de plus en plus quittent le terrain leur tradition religieuse qui les a formés jusqu'à un tel point. Il y a toute cette sorte de craintes et il y a aussi des certaines forces ou des courants politiques qui jouent sur ces craintes et qui essayent de gagner leur point sur ces craintes qui sont réelles, malgré l'insistance de telle ou autre voix eurosceptique, la majorité des Polonais reste carrément pro-européen.
Au sud-est du continent, d'autres pays frappent à la porte de l'Union européenne. Pour Neven Simac, président du club des intellectuels catholiques en Croatie, l'Europe doit poursuivre son élargissement.
La Croatie est déjà un candidat avec laquelle l'Union européenne négocie. Vous savez qu'il y a deux candidats de cette région, la Macédoine, la Croatie, et puis la Turquie qui est également candidate. Les autres, donc la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Kosovo, le Monténégro et l'Albanie, veulent également présenter leur candidature. Et à mon avis, les retrouvailles européennes qui ont commencé fortement il y a deux ans doivent se poursuivre dans ces directions et il ne faut pas que nous oublions nos voisins et frères ukrainiens, peut-être aussi biélorusses, un jour peut-être aussi moldaves. Donc le continent ne s'est pas retrouvé tout entier. Et je pense qu'il y a l'utilité pour tous que ces retrouvailles se réalisent.
L'élargissement pose aussi des questions sur l'identité de l'Europe. Dans quelle mesure parler d'un héritage chrétien lorsque l'élargissement se poursuit vers des pays qui ont de fortes traditions musulmanes?
Vous avez ces minorités, vous avez ces populations importantes en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Albanie, un tout petit peu en Macédoine. Mais il faut savoir que ce sont les chrétiens européens, ce sont des gens qui étaient d'origine soit catholique, soit cathare en Bosnie-Herzégovine. Donc ce sont les populations qui ont également un souvenir de leur appartenance à l'Europe, ce sont des sunnites, donc beaucoup de choses. Les fonds européens, ils savent qu'ils faisaient partie de ce monde-ci, et ils sont très proches du raisonnement des chrétiens. Ce qui les a un peu radicalisés pour partie, notamment en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, c'est le fait que nous les autres Européens, nous les avons abandonnés. L'Europe a péché par abandon des peuples en danger. En Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. C'est malheureusement la Pax Americana qui a été instaurée dans ces régions, et pas de manière très heureuse. L'Europe était absente, parce que politiquement, elle n'existait pas, donc nous avons tous intérêt à ce que l'Europe se développe dans le sens politique du mot. Et dans ce domaine précisément politique, il faut qu'il y ait de la morale, et de l'éthique et des valeurs. L'Europe est admirée de l'extérieur. Elle est en crise, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, mais elle continue à fonctionner. Et ce mode de gouvernance, où le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de l'importance qui est donnée à la personne humaine, peut-être que c'est une sorte d'amorce et d'exemple qui est à suivre sur le plan de ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance mondiale. Vous savez, l'Europe est plus belle vue de l'extérieur que de l'intérieur.
L'enthousiasme européen se trouve donc aujourd'hui non plus au sein même de la vieille Europe, mais de ses extrémités. Le projet européen fait encore rêver, comme en témoigne le père Henri Madelin.
Il ne faut jamais oublier que l'Europe, c'est une dimension mondiale. Moi, je comprends pourquoi les papes sont tellement intéressés à l'avenir de l'Europe, parce que ce qui se fait en Europe, c'est quelque chose d'unique. Il faut penser en termes d'humanité. Nous sommes une portion d'humanité qui, en ce moment, vit des processus de réconciliation en vue de la justice et de la paix.
Merci au père Henri Madelin, à Henryk Wojniakowski et à Neven Simac de nous avoir livré leur regard chrétien sur l'avenir de l'Europe.